Évangile de Luc, chapitre 7 et verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Les mots ont un pouvoir. Oui, il y a des mots qu'on entend et qui sont puissants. Il y a des mots qu'on a du mal à entendre dans certaines situations. Et il y a des mots qui peuvent nous perturber. Il y a des mots qui peuvent sembler même ne pas être à propos. Et pourtant, ces mots que Jésus va prononcer, nous allons en voir quelques-uns cet après-midi. Ces mots peuvent choquer. Ces mots pourront peut-être vous choquer cet après-midi, selon la situation où vous êtes. Mais derrière les mots que Jésus emploie, il y a toujours une action puissante et une action extraordinaire. Jésus a employé donc des mots choquants, et notamment un dans ce passage, « Ne pleure pas ». C'est une histoire incroyable que nous voyons encore dans les évangiles. Une femme se marie, elle tombe enceinte et donne naissance à un fils. Tout va bien, c'est merveilleux. C'est le bonheur total, mais la famille est heureuse jusqu'au jour où elle perd son mari. La femme perd son mari. Et là, c'est la catastrophe dans cette famille en Israël. Elle perd son mari, son fils perd son papa. C'est le drame, c'est la catastrophe. À l'époque et en Israël, il n'y a pas de statut de mère isolée. C'est la catastrophe sentimentale, la catastrophe économique. Les veuves ont un quotidien difficile. Les femmes ne sont pas considérées, elles ne travaillent pas comme les hommes. Et si le mari meurt, c'est la catastrophe. Sans doute que cette femme, à ce moment-là, a beaucoup pleuré. Peut-être que c'est votre cas, vous avez perdu un mari, une femme, et dans ce cas-là, on imagine qu'on ne fait pas autre chose que de pleurer. Elle perd celui que son cœur aime, elle perd sa moitié, elle perd son mari. C'est difficile et douloureux pour cette femme. La mort a frappé. Il y a parfois des familles, des vies comme cela où il y a le malheur qui s'abat sur elles. Il y a des personnes qui perdent leur mari, puis après c'est encore le cas, un suicide, une mort, vraiment improbable. Ça existe encore aujourd'hui. Mais pour en revenir à notre veuve, ce jour-là, elle doit vraiment beaucoup pleurer et être amère, puisqu'elle a perdu son fils, son unique. Je pense que si on était dans le cortège, je ne pense pas qu'on aurait eu un seul mot de consolation pour elle. Même en étant chrétien, des fois le malheur est tellement grand qu'on n'a qu'une envie, c'est de rien dire, de laisser agir la consolation du Seigneur. Elle avait perdu son mari, et maintenant elle perd son fils, son seul espoir, celui qui lui restait. Peut-être qu'on peut se dire le temps la consolera, la vie sera meilleure lorsque son mari meurt, mais au contraire, au lieu de s'arranger, la situation s'aggrave, et son fils lui aussi meurt. Quel drame! Cette femme n'a plus rien, plus de mari, plus de fils. C'est horrible. Tout le monde pleure. Elle pleure. Je pense que si on aurait été à sa place, on aurait pleuré aussi. Mais il y a un homme dans la foule qui s'avance et qui va lui dire « Ne pleure pas ». Pour moi, c'est des paroles choquantes. Est-ce que vous auriez osé dire « Ne pleure pas », une telle femme, une femme qui est dans une telle situation ? Il n'y a rien de pire lorsqu'on pleure qu'on nous dise « Ne pleure pas ». Quelqu'un qu'elle connaît absolument pas, quelqu'un qui vient et qui lui dit « Ne pleure pas ». Mais on a envie de lui dire « Mais qui es-tu pour me dire « Ne pleure pas » ?»« Je suis triste, je suis abattu et tu me dis « Ne pleure pas ». » Derrière les mots de Jésus se cache toujours quelque chose de grand et quelque chose qui nous dépasse. Il lui dit « Ne pleure pas ». Il ne lui dit pas « Ne pleure pas parce qu'il ne faut pas que tu pleures ». Il ne pleure pas parce que c'est pas bien de pleurer. Ne pleure pas, c'est pas le moment. Retiens-toi. Mais il lui dit « Ne pleure pas parce que je vais faire quelque chose de glorieux, parce que j'ai les moyens, j'ai le pouvoir de te consoler. » Et ça, ça change tout. Jésus est touché par cette femme, par sa détresse. La Bible nous dit qu'il est ému de compassion. Et il veut faire quelque chose pour elle. Il s'approche du cercueil, le touche. Il lui impose les mains à distance. Il parle au jeune homme et lui dit de se lever. Et la chose incroyable se produit, le mort s'assit et se met à parler. Amen. Imaginez un instant le cœur de la maman. Moi, je crois que je tombe dans les pommes. Jésus a des raisons de nous dire « Ne pleure pas ». Peut-être que tu vis une situation tellement difficile dans ta vie que la seule chose que tu as envie de faire, c'est pleurer. Mais Jésus vient et te dit « Ne pleure pas ». Ne pleure pas parce que je t'ai compris. Ne pleure pas parce que ton cas m'a touché et ne pleure pas parce que je vais régler ton problème d'une manière puissante. Amen. Ça peut paraître une parole choquante, mais quand c'est Jésus qui la prononce, on peut s'attendre à une action extraordinaire derrière. Amen. Je vais te consoler, je vais te bénir, je vais faire quelque chose d'incroyable qui dépasse ton imagination, qui dépasse le réel. Je vais ressusciter ton fils. Il n'y a aucune chose à qui. Rien n'est impossible à Dieu. Et s'il nous dit ne pleure pas, c'est qu'il a les moyens de régler notre situation. Deuxième texte que je voudrais voir avec vous, c'est dans les évangiles, dans Jean chapitre 5, verset 1er. Jean chapitre 5, verset 1er. Ça va, vous n'avez pas trop chaud ? Ça va ? Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après l'eau, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Encore une parole choquante de Jésus. Connaissons bien ce texte. Veux-tu être guéri ? Vous avez déjà demandé à un malade s'il voulait être guéri ? En tout cas, un malade qui est dans un endroit où la guérison est normalement possible. S'il y a un malade qui est à la maison, c'est normal que peut-être il ne veut pas de soins, il veut se laisser mourir, ça peut arriver. Mais imaginez qu'on aille à l'hôpital cet après-midi ensemble, on fasse toutes les chambres, on ouvre la porte et qu'on dise « Bonjour monsieur, est-ce que vous voulez être guéri ?» Ben, vous me regardez comme ça. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là ? Si je suis là, c'est pour être guéri. Si je vais chez le médecin, c'est pour être guéri. Si je suis dans cette piscine, si je suis à cet endroit-là, c'est qu'on m'a dit qu'il y avait eu des guérisons et on m'a dit que peut-être je pourrais être guéri. Ça fait 38 ans que cet homme est là, que cet homme est bloqué, qu'il ne peut pas marcher, et on lui demande s'il veut être guéri. C'est choquant. Non ? Il est dans le lieu où il y a des guérisons. Selon la croyance, un ange venait et remuait l'eau, et le moins malade qui arrivait le premier, celui qui arrivait le premier, pouvait être guéri. Donc cet homme était malade, mais surtout s'il était là, c'est qu'il voulait être guéri. Quelle question, veux-tu être guéri ? On a envie de dire, non, ça fait 38 ans que je suis malade, je me suis habitué, il n'y a pas de problème, je suis là, mais j'aime bien voir les autres être guéris et pas moi. Non, ça va, 38 ans. On ne s'habitue jamais à la souffrance, n'est-ce pas ? Et si Jésus vous disait, veux-tu être guéri ? Non, ça fait trop longtemps, je suis habitué maintenant. Puis je suis trop âgé, puis c'est trop compliqué, puis c'est trop dur. Dans la réponse à cette question, il y a la confiance en Dieu qui s'enclenche pour cet homme. Oui, je veux te faire confiance. Le malade va dire, mais j'ai personne pour me porter. Mais Jésus va lui dire, lève-toi et marche. Mais j'ai personne pour m'aider. C'est comme si Jésus se présentait à lui en disant, mais tu vois, j'ai les moyens de te guérir. Moi, je suis là. Je suis là pour te guérir. Si je te demande, veux-tu être guéri ? C'est parce qu'en moi, il y a la guérison. C'est parce que moi, j'ai les moyens, j'ai les pouvoirs de te guérir. Croyez-vous que Jésus guérit encore aujourd'hui ? Il guérit de cancer. Il guérit de douleur. Il guérit de traumatisme. Il guérit le corps et il guérit le cœur. Voudrais-tu être guéri ? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir ? Troisième parole choquante de Jésus dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Et on pourrait dire que c'est une des paroles les plus choquantes de Jésus. À force de l'entendre, on s'y habitue peut-être, mais quand on réalise ce qui s'est passé, ça peut être très choquant. Quand on n'a pas réalisé le cœur du Père et le cœur de Jésus. Luc chapitre 23, verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Vous avez trouvé la parole choquante de Jésus ? Ça vous choque plus ? Vous êtes trop habitué. Trop habitué à la grâce. Allez, on le relit. Amen. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est pas choquant, ça ? Non. Nous qui crions à l'injustice. Ah oui, de la part de Jésus, c'est pas choquant. C'est vrai, parce qu'on le connaît. Mais quand on réalise, si on le prend sans le connaître, comment un tel homme peut dire ça ? Comment un homme peut dire une telle parole? Comment une femme peut dire une telle parole? Père, pardonne à mes ennemis car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous qui sommes si prompts à nous énerver face à une injustice. On a joué au foot toute l'année et on est obligé de parler un petit peu de ça. C'est un jeu, c'est une partie de football. Mais dès qu'il y a une erreur d'arbitrage, l'arbitre a même peur de prendre des coups. Et c'est vrai, c'est vrai. Il est arrivé, on a vu, heureusement pas dans notre équipe, mais il est arrivé que l'arbitre a eu vraiment très peur. Les gens deviennent fous pour un pénalty qui n'aurait pas eu lieu. Là, on a craché sur Jésus. On l'a roué de coups, on l'a cloué au calvaire, alors qu'il n'avait rien fait, alors qu'il n'avait rien commis. Et qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Mon père, venge-toi et mon père, fais descendre le feu sur eux et comme ça, ils vont comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ton fils. Ça aurait pu être ça. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cette parole, elle est adressée pour tous les ennemis de Dieu. Et avant d'accepter Dieu, avant de devenir son ami, avant de lui donner son cœur, on était tous ennemis de Dieu, séparés de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Face à ceux qui ne croient pas en lui, face à ses bourreaux, il prie son Père de leur pardonner. Non, ne leur fais pas de mal, ne fais pas de mal à mes ennemis. Et nous sommes tous ses ennemis, amis du monde et de ses convoitises. À la croix, Jésus a prononcé ces paroles choquantes car il était en train d'accomplir la plus grande action de pardon de tous les temps. Parce que la croix nous réconcilie avec notre Père céleste. Amen. Il y a eu cette parole choquante à la croix pour te réconcilier avec Dieu, pour que tu obtiennes le pardon de tes péchés, pour que tu sois lavé de tes fautes et que tu sois sauvé. Derrière les paroles choquantes de Jésus, il y a des actions extraordinaires. Et la plus grande action extraordinaire de tous les temps vient après cette phrase « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » À la croix, on a obtenu le pardon de nos péchés. Et on a obtenu une nouvelle vie en Jésus-Christ. Derrière les paroles choc de Jésus, derrière les phrases étonnantes, il y a des actions puissantes. Et peut-être qu'en t'approchant de Dieu cet après-midi, peut-être que tu viens depuis quelques réunions, tu entends de plus en plus ces mots de Dieu, ces mots de Jésus. Ne pleure pas. Veux-tu être guéri? Pardonne-leur. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Et que pour toi c'est très étonnant et même perturbant, mais sache que derrière ces mots, il y a le miracle de Dieu, l'action puissante de Dieu dans ta vie. Alors ne crains plus, viens à lui. Viens à lui, expérimente ces mots, expérimente cette action de Dieu. Elle est pour toi cet après-midi encore.